ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Bonjour et bienvenue à ces gens qui font la différence. Je vais être avec vous pendant 60 minutes et je vais vous faire découvrir quelqu'un qui fait quelque chose d'absolument passionnant. Quelqu'un qui donne sa vie pour les autres. Je parle de Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Il a été reçu au barreau en 1982. Il est détenteur d'une maîtrise en administration publique. Maître Brunet est directeur général bénévole et porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Cet organisme, qui est fondé en 1974 par son défunt frère, Claude, on s'en souvient très bien, il a tellement fait de choses. Quand on parle de Paul, on pense aussi et beaucoup, beaucoup à Claude. Et à Claude, eh bien, sa mission était de protéger et défendre les droits des usagers du réseau de la santé au Québec. En plus de son métier d'avocat, Paul Brunet consacre beaucoup de temps à l'organisme fondé par son frère. Il donne des conférences à travers le pays et fait chaque année, et bien souvent pendant ses vacances, une tournée des centres d'hébergement et de soins de longue durée. On le reçoit tout de suite après. Monsieur Brunet, bienvenue à ces gens qui font la différence. On a reçu énormément de courriels aujourd'hui, très touchants concernant votre travail, mais aussi le travail de votre frère. Et ça, j'imagine que ça vous suit toute votre vie, ce que votre frère a fait.
Oui, en fait, ça me suivra probablement jusqu'à la fin. Claude a fondé le Conseil pour la protection des malades il y a 40 ans, imaginez-vous. Mm-hmm. Et on tente humblement de perpétuer son œuvre qui fête ses 40 ans aujourd'hui, cette année, en passant.
Bien.
Alors, on en est très fiers.
Alors justement, quel genre de famille, la famille Brunet, il y a le père Arthur et la mère Marguerite. Vous êtes né où? Vous avez grandi où?
En fait, je suis né à la Chine. J'ai grandi à la Chine. Jusqu'à ce que mes frères quittent les uns après les autres pour fonder eux-mêmes une famille. Et nous sommes déménagés, ma mère et moi, au centre-ville de Montréal. C'est là que j'ai fini mon droit en 1982. Je commence à être un vieil avocat en 1982. Tandis aujourd'hui, en tout cas.
Alors, vous êtes le dernier de la famille?
Oui. Mm-hmm. Oui, je suis le cadet. Et j'ai pris l'œuvre de Claude, évidemment avec l'aide de mes autres frères, parce que j'avais un peu de disponibilité et j'aimais ce travail de militantisme pour la justice sociale. Hein. Quand mm-hmm. on se bat pour que les gens reçoivent des soins, c'est élémentaire, c'est comme manger, c'est comme avoir un logement. Mm-hmm. Alors j'aimais, ça me plaisait et Claude était d'une inspiration extraordinaire. On ne pouvait pas refuser à Claude l'aide qu'il nous demandait.
Alors, avant qu'on aille dans le vif du sujet et l'œuvre et votre fondation et ce que vous faites, à quel âge, je pense que c'est 7 ans, que vous vous êtes aperçu que rien n'allait plus pour Claude? Comment ça s'est passé dans votre famille?
En fait, effectivement, à l'âge de 7 ans, Claude a fait une méningite cérébro-spinale qui s'est compliquée avec probablement une erreur médicale et qui a fait que Claude a paralysé, est devenu paraplégique, donc du bas du corps jusqu'aux orteils. Mm-hmm. Et c'est là que ma mère, mes parents se sont aperçus que Claude avait certaines qualités C'était un gars qui priait beaucoup, il avait une foi extraordinaire et il l'apprenait par lui-même. Il aimait lire dans les moments où il ne souffrait pas, évidemment, parce qu'il était très souffrant.
Mm-hmm.
Et il s'est mis comme ça, tranquillement, à partir de sa chambre à Saint-Charles-Borromée, à s'inquiéter des autres dans l'établissement et à faire des représentations informelles auprès de la direction sur toutes sortes de choses qui font la différence entre un minimum de qualité de vie et une absence de qualité de vie.
Mais à partir de 7 ans, est-ce que vos parents savaient qu'ils ne pourraient plus retrouver...
Oui, ma mère était infirmière.
Sa faculté de marcher.
Oui, elle avait eu un entretien avec le médecin, il était inconscient, et il lui avait dit certains pronostics habituels suite à ce genre de maladie ou de ce qui lui était arrivé. Il devait soit perdre la raison, soit devenir aveugle ou paralysé. Et ma mère disait, j'espère qu'il ne perdra pas la raison, quoi qu'il lui arrive.
Mm.
Alors, quand il s'est réveillé, il ne sentait plus ses jambes.
Très jeune. Et votre enfance à vous, avant de parler de Claude, il va être là pendant l'émission, les 60 minutes, il va être présent. On le sent, il est avec nous. Votre œuvre et son œuvre se perpétuent. Vous, à la maison, comment ça se passait de savoir que, bon, votre frère ne peut plus marcher, ça chambarde la vie familiale. Est-ce que vous êtes comment? Vous êtes dans votre coin? Vous êtes révolté? Vous êtes comment comme garçon?
En fait, moi, je vis au monde 18 ans plus tard, après la naissance de Claude. Alors, c'est sûr que les années qu'il passait à la maison, jusqu'à 16 ou 17 ans, je ne les ai pas connues, j'étais pas au monde.
Mm-hmm.
Mais ce qu'on m'en rapporte, c'était que c'était toute une corvée. Claude était un grand malade, mais il apportait une dimension humaine que seules les familles qui ont un enfant ou un proche malade qui vit avec eux, avec elles, savent... comment cela se passe, et ça demande un effort extraordinaire. Ma mère glorifiait ce qui était arrivé à Claude jusqu'à un certain point, mais nous avons su plus tard qu'il s'était agi d'un drame pour elle parce qu'elle s'était confiée à quelqu'un que j'ai rencontré par hasard plusieurs années après le décès de Claude et de ma mère, d'ailleurs.
Et donc, elle s'est confiée après, enfin oui. À quelqu'un d'autre de la famille?
Oui. En fait, je l'ai rencontré dans une foule, cette dame-là, qui m'a reconnu. Elle a dit « Vous êtes le frère de Claude Brunet ». J'ai dit « Oui ». Et elle m'indiqua que c'est sa mère, à elle, qui présenta ma mère à mon père.
Mm.
Et c'est à sa mère que ma mère écrivait pour lui raconter le drame qu'elle vivait. Et c'est là que j'ai appris que même si elle avait vanté la chance que nous avions d'avoir un grand frère qui était gravement malade, que ça avait été un drame pour elle, mais elle ne nous l'avait jamais dit.
Elle ne vous l'a jamais montré?
Non.
Quelque chose?
Oui.
Une grande femme?
Oui, elle n'avait jamais parlé de ça, et ça a été un choc, parce qu'on apprend que, dans le fond, ma mère, comme les autres mères, sans doute, ont souffert et souffrent quand elles apprennent qu'un de leurs enfants est gravement malade. Oui.
Quand vous étiez donc plus vieux et que vous trouviez que c'était difficile pour Claude, ça vous faisait quoi, vous?
Écoutez, moi, comme je le disais, j'ai pas vécu les moments difficiles. Hein. Claude a été adolescent en fauteuil roulant, la remise en question, la remise en cause de la vie même à cet âge-là. Mais tranquillement, il s'est mis à lire beaucoup d'œuvres par lui-même. Il a appris littéralement à lire et à écrire par lui-même.
Oui, parce que c'était un autodidacte, effectivement.
Absolument.
Ouais, ouais.
Et maman disait qu'il il se recroquevillait souvent dans son propre être. Mais on le surprenait à prier parfois. Ouais. Alors,
oui,
il y avait un rapport,
disiez,
un rapport spirituel
ouais.
Précis. Complet, je pense. Et c'est probablement ça qui l'inspirait, à part évidemment une élocution et un charisme que des gens m'ont raconté qu'il avait, même devant les tribunaux, quand il se présentait là. Imaginez, dans les années 60-70, pas grand malade se présentait par eux-mêmes devant un juge. Alors, quand il entrait dans une salle de cour, tous les yeux, y compris ceux du juge, étaient rivés sur lui.
Mm.
On lui demandait ce qu'il voulait et le juge rendait l'ordonnance pratiquement au mot à mot de ce que Claude avait demandé. C'était un drame pour nos amis de la CSN, entre autres, lors de grèves illégales.
Alors, un homme brillant. Hein?
Déterminé, assoiffé de justice, et je pense que ce sont là de belles qualités qu'il nous a léguées. Peut-être qu'il n'aurait pas eu avec autant de certitude s'il avait été un bien portant, entre guillemets, comme nous. Mais,
vous croyez que c'est bâti plus?
Possiblement, hein. Mais ce que j'apprends, c'est que du côté de ma mère, les Sourioles, on a une certaine détermination déjà, avec une élocution qui nous aide, je pense, à parler de ce qui est important et à faire comprendre notre point de vue. Sûrement que la vie de Claude, son handicap, nous a aidés à nous assoiffer encore plus de cette requête, de cette quête
de
pour
cette quête,
la justice.
Alors, votre parcours à vous, quand est-ce que vous avez la lumière qui vous indique le chemin à suivre pour faire ce que vous voulez faire comme avocat dans votre vie?
Ouais.
Est-ce que ça vous vient jeune? Est-ce que justement c'est porté par ce que vit votre famille et surtout ce que vit Claude, sa condition? Parce que il faut dire, et je pense que les gens vont s'en souvenir, j'en ai parlé, c'est sûr que l'autre génération ici à la radio me disait: Sophie, est-ce que Claude, c'est qui? Dis-moi exactement. Et c'est important de revenir dans le passé,
oui,
hein, pour comprendre notre présent et notre futur. Il était un des premiers. D'abord, il était en chaise roulante au tout début. Et par la suite, il a été couché et il sortait, un des premiers, une des premières personnes handicapées à sortir avec son lit et à s'adresser aux journalistes, quelque chose qu'il ne s'est jamais fait. Et apprendre, pas s'adresser tout simplement avec des paroles douces, mais à dire haut et fort l'injustice des personnes handicapées. Et donc, c'était vraiment quelqu'un, un modèle à suivre, votre frère.
Écoutez, je ne crois pas qu'il se soit agi d'une lumière en tant que telle. On n'avait pas le temps d'être romantique au sens littéraire du terme. Mais Claude nous planifiait déjà nos week-ends ou nos soirées parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de transport adapté. C'était les balbutiements du transport adapté. Il y avait eu un don de la compagnie Ford. Et avec mon frère qui était bricoleur, on réussissait à aller chercher des gens en fauteuil roulant, à les réunir avec Claude pour sa cause, pour le Comité provincial des malades. C'était le nom que l'organisme portait informellement à l'époque. Alors, Claude nous planifiait nos sorties, on savait où on devait aller, dans le métro, vendre des macarons, des stylos. Je racontais hier à une amie que, justement, à un bout d'une station de métro, moi, je criais, ça peut arriver à tout le monde d'être malade, aidez-nous, encouragez-nous. Et je saisissais pas, mais à un moment donné, en écoutant, Claude était à l'autre bout de la station de métro, et il disait, ça peut arriver à tout le monde d'être avocat. Alors, pour rire et me taquiner, lui, il racontait son propre truc avec son slogan. Alors, finalement, il était bien content de m'avoir eu. Et les gens souriaient.
Un bon sens de l'humour.
Oui.
On aime ça. Alors, vous savez que ici, à notre émission, vous choisissez les chansons, mais il y a toujours un pourquoi derrière. Vous avez choisi, Stéphanie Lapointe, « Les amours parallèles ». Pourquoi?
J'aime la voix de cette chanteuse. Elle me transporte. Je la connais pas. Mais pour avoir entendu quelques-unes de ses œuvres, elle m'a enchanté.
Alors, on l'écoute.
Ils sont des millions dans la ville, les filles fragiles et les garçons prudents, à l'imagination fertile, s'invente une idylle pour chaque frisson. Filles et garçons, collectionneurs les prénoms, ils s'en font des chansons d'amour. Ils sont des millions dans la ville, les filles secrètes et les garçons fanés dans la fête à rentrer de bonne heure quand le cœur ne sait plus où donner de la tête. filles, garçons, collectionneurs les prénoms, ils s'en font des romans savants. Ils sont des millions dans la ville, les filles sauvages et les garçons de proie qui trop souvent se trompent de cible et perdent leurs ailes, une plume à la fois. Filles, garçons, collectionneurs les prénoms, ils s'en font des films.
Nous sommes en compagnie de Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, ça n'a pas été facile le chemin parcouru pour Claude. Quand il n'était plus capable de marcher, on se demandait ce qu'il avait. Ça a tellement été difficile que financièrement, vos parents ont dû vendre leur maison.
Oui, mais en fait, on tentait par tous les moyens, c'est ce qu'on m'a raconté, de voir si Claude ne pourrait pas être guéri. Alors, mon père avait quelques propriétés, il les a vendues pour amener Claude, imaginez, dans les années 50, à la clinique Mayo de Chicago. Mm. Mais c'était irréversible. L'infection avait causé la paralysie et c'était sans retour.
Quand ils vendent les propriétés, c'était vraiment, c'est tout pour le tout. On y va, on va aux oui. États-Unis voir ce qui se passe.
Oui.
Est-ce que vos parents vous ont dit ce qu'ils sont restés longtemps? Est-ce que ça a été quand même le moment où il y avait de l'espoir pendant toutes ces journées-là ou dès le début du séjour, c'était non?
Ce qu'on m'a raconté, c'est que le diagnostic est sorti assez rapidement et... Je me rends compte que dans les mois qui ont suivi, mon père est décédé subitement. C'est encore dans les années 50. Je venais de naître. Mon père est mort quelques semaines plus tard. Et par la suite, Claude a dû envisager d'être hébergé parce que ma mère ne pouvait plus suffire à la tâche. Il y avait déjà quelques enfants à la maison, en plus de Claude, qui demandait beaucoup de soins. Alors, c'est là que Claude a convenu, m'a-t-on raconté, qu'il chercherait pour un hébergement, malgré son jeune âge, 16 ou 17 ans.
Et donc, il est parti...
Oui. Alors, il fut hébergé d'abord à Sainte-Anne-de-Bellevue, avec les gens qui rentraient de la guerre. Le centre hospitalier Sainte-Anne-de-Bellevue était pour les vétérans. Puis, sur Côte-des-Neiges, un autre centre pour les vétérans. C'est là que Claude a appris à blasphémer, me racontait-il. Par la suite...
Ben, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il écoutez, se défende.
Absolument, absolument.
C'était rough, c'était dur avec ces gaillards, j'imagine. Là.
Et après avoir
il n'y a pas eu le choix.
Ouais, quelques autres centres, il s'installa finalement à Saint-Charles-Borromée dans les années 50, l'hôpital du cardinal Léger.
Oui, et c'est là qu'il est resté un bon bout de temps.
Il a passé pratiquement 30 ans. Et nous, jeunes et plus vieux, j'y vais encore, nous allâmes à chaque semaine visiter notre frère, à chaque dimanche. C'était non négociable.
Oui, Ouais. Il devait tellement être heureux de vous voir.
Ah ben oui, écoute.
Vous faisiez rire aussi, j'imagine,
oui,
d'après
Claude
la façon
avait
dont vous
un
le...
humour.
Ouais, hein?
Oui, oui.
Ouais.
Et malgré sa souffrance, hein, il raconte dans un film que nous avons fait réaliser récemment pour les 40 ans de l'œuvre, combien il souffrait et que ses occupations lui permettaient d'oublier jusqu'à un certain point ses souffrances physiques.
Alors, il n'a pas oublié de le dire aux gens, n'a pas oublié de l'écrire. Trois livres, Ma souffrance, Ma contestation et Nous, les oubliés, c'est quelque chose.
Oui.
Il voulait écrire et dire haut et fort ce qui se passait, parce qu'il était révolté aussi de ce qui se passait dans le système de santé. Là.
Mais il réussissait, comme par miracle, à canaliser cette rage de voir l'injustice qui était commise auprès particulièrement de ceux et celles qui n'avaient pas de visite, particulièrement ceux qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas de famille, parce que souvent à cette époque-là, je ne suis pas certain que ça a changé beaucoup. On abandonnait littéralement des personnes handicapées lourdement, là où on réussissait à les faire héberger. Et ces gens-là, vous l'avez dit tantôt, ne sortaient plus de ces établissements-là. Il n'y avait pas de transport adapté. C'était beaucoup plus difficile de penser même à devenir le moindrement autonome.
Et alors, il était témoin comme vous. Vous avez été témoin de ça, justement, d'être laissé à eux-mêmes, de l'abandon, de ne pas être lavé, de ne pas avoir de compagnie, parce que les gens ne venaient pas. Et c'est la plus grande tristesse, la plus grande peine.
Oui. Je ne suis pas certain que ça a changé beaucoup. On a réussi à rendre un peu plus et un peu mieux les gens autonomes, malgré leur lourd handicap. On le voit parfois, des gens qui circulent, malgré qu'ils n'aient pas usage de leurs jambes ou de leurs bras. Mais je ne suis pas certain que ces gens-là ne sont pas laissés pour une grande partie d'eux pour compte par leur famille ou leurs proches.
On dit
qu'à peine une personne sur quatre qui vit en soins de longue durée, en centre de soins de longue durée, est visitée régulièrement.
C'est révoltant.
C'est révoltant et ça nous donne un aperçu de nos propres valeurs. Hein? Quand on blâme le réseau pour mal s'occuper des gens qu'on dit aimer, faudrait nous-mêmes examiner ce que l'on fait ou ne fait pas pour eux, parce que malheureusement, souvent, ce sont ceux qui ne sont pas visités qui sont les plus négligés, parfois même abusés.
Alors, on va sur ce aller à la prochaine chanson de St. Philip Boy Tour, Angel Voice, Be Still for the Presence of the Lord. Pourquoi?
Pour la beauté des chants, des voix.
On l'écoute.
Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. And He will sing His word.
C'est vraiment un beau titre, Les Voix des anges, c'est magnifique.
Oui, inspirant.
C'est vraiment inspirant.
Oui.
C'est comme vous avez été inspiré dans votre vie, à travers la vie de votre frère. C'est sans doute pour ça que vous avez décidé de devenir avocat, à défendre les êtres humains.
Je continue et je persiste à dire que c'est probablement à cause d'une partie des gènes dans ma propre famille, les Sourioles, que nous avons cette détermination-là. Écoutez, j'avais 7 ans à l'école et mon professeur était venu pour chicaner un des garçons. Puis j'avais dit, pourquoi vous chicanez toujours le petit Lavalli, il est tout petit? Est-ce que c'est parce qu'il est petit que vous le chicanez tout le temps? Alors, elle avait appelé ma mère pour lui dire, cet enfant-là va faire un avocat, il défend tout le monde dans la classe. J'avais 7 ans.
Alors, un justicier déjà, là.
Quelque part, j'ai toujours été horrifié par l'injustice que je pouvais voir, entendre ou sentir.
Est-ce que le petit frère voulait défendre le grand?
Probablement aussi, mais Claude n'avait pas besoin de nous pour se défendre. Il était lui-même l'incarnation de la cause des malades. On tente de perpétuer l'œuvre.
On fait une pause et on revient tout de suite après.
Qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Alors, nous sommes de retour, mesdames, messieurs, à Ces gens qui font la différence avec Maître Paul Brunet. Nous sommes rendus à la fondation. C'est en 1974 que tout se met en branle. Comment ça se fait et dans quelles conditions? Et qui décide finalement de dire, ben là, il faut changer les choses. Pour changer les choses, il faut qu'on puisse aider, il faut qu'on soit officiel. Alors, qui fait ça? Est-ce que ça se fait en famille? Parce que je sais que votre mère est très impliquée. Comment ça se passe?
Ben Claude, je le disais tantôt, commence à parler au nom des malades de l'établissement où il vit. Et il trouve d'autres liens, d'autres personnes avec qui, finalement, il fonde le Conseil pour la protection des malades, qui s'appelle à l'époque Comité provincial des malades. Ils obtiennent, avec l'aide d'avocats bénévoles, une incorporation de l'organisme et se voient offrir un bureau, un local très petit au complexe des jardins, qui aussi vient d'être construit. Alors, à cause du mouvement des jardins, Claude obtient gratuitement un local qu'il peut occuper pendant quelques années.
Alors, donc, il commence à... C'est gratuit, donc c'est ça. C'est de l'or en banque, comme on dit. Hein?
Oui, absolument. C'est très exigu et les demandes fusent de partout, de sorte que, sans le vouloir, je ne sais trop, Claude commence à parler pour et au nom des malades de partout au Québec qui appellent pour se plaindre des services ou des mauvais services qu'ils reçoivent.
Ou pas de service, finalement.
Ou pas de service. Ouais. Et... comme le dit Pierre Bruno dans le film qui a été produit récemment, les nouvelles ne parlent que de l'employeur et des employés qui ne sont pas contents de leur sort. Et soudainement, quelqu'un sort entre ces deux belligérants. C'est Claude Brunet qui dit, écoutez, nous autres, les malades, on est là, on existe.
Voilà. Et il défend et il veut qu'on s'occupe des malades parce qu'on n'en parle pas assez. Il dit les communications, les soins de santé épouvantables. Aussi, il parle de cette solitude. Vous en avez parlé dans l'émission. C'est-à-dire qu'on abandonne carrément. Hein? On place ou stationner. C'est affreux, mais c'est vrai. C'est-à-dire que les gens qui sont malades, ben on les oublie. Et lui, il ne veut absolument pas qu'on les oublie. Et il tire la sonnette d'alarme.
Oui.
Il va dans toutes les émissions de télévision. Mais surtout, il répond à ces gens qui appellent pour dire, bon, la nourriture est atroce. Et ça continue, là, ça grandit. Il y a énormément de demandes.
Oui. Il montre, il forme littéralement des gens qui répondent au téléphone pour donner de l'information. Et éventuellement, imaginez-vous, il se met à embaucher des avocats, des avocates, dont Michel Lanquin-Étier, qui est une jeune avocate, qui deviendra, au décès de Claude, la directrice générale, mais qui, elle aussi, prend littéralement les dossiers que Claude lui confie. Et des recours collectifs au nom des malades sont institués dès l'année 1978. Écoutez, on n'a jamais vu ça au Québec, des malades qui osent s'en prendre à l'autorité. Eh bien, Claude obtient un règlement hors cour avec la CSN parce qu'il y avait eu une grève illégale dans l'établissement où il résidait. Alors, c'est une nouveauté. Qui sont-ils, ces malades, qui osent se plaindre même devant les tribunaux? Eh bien, c'est là où je pense qu'il y a une émancipation assez importante des malades, des personnes handicapées au Québec. Et s'ensuivent la création des organismes comme l'Office des personnes handicapées du Québec, l'adaptation littéralement des trottoirs, parce que avant 76-77, les trottoirs partout au Québec, au Canada, jusqu'à un certain point, n'étaient pas adaptés pour recevoir un fauteuil roulant. Alors Claude se promenait entre l'hôpital Saint-Charles-Borromée, qui est tout près du complexe des Jardins, vers le complexe, dans la rue, et la police l'arrêtait pour lui signaler qu'il était en infraction. Il disait, bien écoutez, donnez-moi un billet de contravention, moi je ne peux pas accéder.
Incroyable.
Jamais la police lui a-t-elle émis un billet de contravention, ben, évidemment.
Attendez, vous nous dites qu'ils essayaient de lui refiler une contravention.
Oui, ils le menaçaient sympathiquement, mais ils le menaçaient, mais jamais ils n'ont osé émettre le billet. Mais Claude attendait que ça pour faire réagir.
Tout à fait, il serait sorti à la télévision avec ça, lui.
Et c'est sous l'administration Drapeau-Lamarre que les trottoirs se mirent à être adaptés, chaque coin de rue partout au Québec, et plus tard pour le reste du Canada. Cette idée-là avait fait son chemin.
A fait son chemin. Les politiques, est-ce que c'était difficile de les rejoindre à ce moment-là, au tout début? Est-ce que les politiciens étaient ouverts aux demandes où il fallait se battre à dose homéopathique? C'était comment?
Et Claude devait prendre sa place, devait faire prendre la place des malades. Les politiciens, évidemment, comme n'importe qui, étaient très sensibles à la venue de cet homme en civière roulante, littéralement. Alors, tout le monde l'écoutait. Les choses n'avançaient pas aussi vite qu'il le souhaitait, mais le conseil, la création du Conseil des services essentiels au début des années 80 est certainement en partie causée par les pressions que Claude et toute sa présence médiatique ont faites, de sorte que nos amis, certains syndicats, ne l'ont jamais digéré, la création du Conseil des services essentiels, parce qu'avant, les grèves dans les hôpitaux étaient sauvages. On n'entrait plus dans l'hôpital, les malades n'avaient plus de soins, n'avaient plus de nourriture. Maintenant, on a civilisé ces rapports-là, sauf respect pour... et créé une sorte d'équilibre entre les droits des uns et les droits des autres, parce que c'est pas vrai que le droit de grève peut conduire à la mort de malades parce qu'ils ne reçoivent pas les soins, et c'était pourtant le cas à l'époque. Alors, on a civilisé les rapports, et Claude en est certainement... en partie responsable.
Et au niveau des droits, de la littératie des personnes handicapées, est-ce que c'était pauvre au départ? Est-ce que vous avez contribué à ce qu'il y ait une charte? Est-ce que les choses se fassent par écrit, justement, pour contrer à cet idiot de policier qui essayait de mettre un billet? Est-ce qu'il y a eu un avancement à ce niveau-là?
Claude était présent partout dans toutes les commissions parlementaires. Il se rendait à Québec malgré sa maladie. Parfois même, la commission sur la santé et les services sociaux venait à Montréal parce que Claude ne pouvait pas se déplacer, était trop malade, pour l'entendre sur différents projets de loi. La Charte québécoise des droits et libertés, qui comprend un chapitre sur les personnes handicapées, est certainement là en partie. Je ne dis pas que le Parti québécois n'en est pas responsable, évidemment. Mais Claude était présent. Et quand on est présent, on pousse, on crée une pression. Au début des années 80, la création, l'obligation d'avoir un comité de bénéficiaires, maintenant un comité de résidents et d'usagers dans chaque établissement, est due parce que Claude l'a proposé en commission parlementaire. Claude était présent, les gens qui œuvraient pour lui étaient présents dans ces pièces de législation très importantes.
Quand vous aviez l'occasion de le voir le dimanche à Saint-Charles-Borromée, qu'est-ce que vous disiez? Est-ce que vous avez donc évidemment assisté à ses débuts, mais est-ce qu'il vous disait, ma nourriture, est-ce qu'il vous parlait de ce qu'il vivait à l'intérieur, de sa révolte, de son envie de vouloir changer les choses? Qu'est-ce qu'il vous disait dans ces moments-là?
Mais en fait, il nous racontait des choses très pratiques comme les besoins de transport pour que des réunions se fassent, se tiennent là où les gens qu'il avait réunis avaient été conviés. Il nous parlait de certaines demandes qu'il avait faites. Et évidemment, mais jamais Claude, en tout cas l'ai-je vu, enragé. Il canalisait avec une force extraordinaire cette détermination-là pour et au service des autres. D'ailleurs, je tente moi-même de m'en inspirer parce que des fois, certains faits qui sont rapportés sont littéralement indignants, horrifiants. Et je tente, parfois je m'emporte, mais je tente de mener, de conduire la position du Conseil de la protection des malades comme Claude le faisait. Il nous disait « choquez-vous pas, parce que quand vous jetez le désarroi et la rage dans les hôpitaux où vous rendez pour régler un problème et que vous quittez, ce sont les malades qui vont encore souffrir de l'atmosphère dans laquelle vous avez jeté le personnel. » Alors, on faisait attention, mais des fois, malheureusement, il se peut qu'il y ait des gens malcommodes dans le réseau de la santé. Ça fait partie du jeu.
Et lui, sa vie, parce que je le disais, il était étendu, c'était comment son quotidien? Est-ce qu'il vous le racontait, son quotidien? Est-ce qu'il vous disait, ben moi, pour partir ma journée, ça me prend tant de temps, parce que moi, j'entends, les gens m'en parlent, puis des fois, ça prend, Sophie dit, ça me prend à peu près une heure et demie avant d'être prête à aller sur le trottoir, j'entends toutes les démarches qu'il faut faire pour vivre une vie normale, mais ça prend beaucoup plus de temps. Comment c'était avec votre frère?
Claude parlait rarement des choses personnelles qui étaient les siennes, et que ce soit sa souffrance physique. Hein, il ne nous le montrait pas, mais il était très souffrant parfois. Et il disait, j'ai un horaire de fou. Ça levait très tôt et ça finissait très tard le soir. C'est un miracle. Comment Claude a réussi à accomplir tout ce qu'il a fait et à remuer autant d'autorité?
Ouais. Il vous en parlait pas?
Non, jamais il parlait de...
Vous savez qu'il souffrait.
J'ai appris dans un film d'archives dont on a placé une partie du film dans le film qu'on a produit récemment pour son œuvre, et il le dit humblement, je souffre beaucoup, mais j'ai pas le temps, et si je m'occupe plus, ça fait déjà moins mal.
Donc, il n'avait pas le temps pour lui?
Non.
Est-ce qu'il était à Saint-Charles-Borromée, la vedette?
Il était la vedette, mais il était la cible aussi.
C'est ce que je me dis, parce que lui, il a dénoncé, ça partait de là.
Et il avait fait gagner pour les malades un recours collectif.
C'est ça.
Alors, il était une cible de choix.
Exact.
Il a été menacé de mort lors de grandes négociations de conventions collectives, lors de grèves. Ma mère avait dû embaucher un gardien de sécurité. Ah oui, il était menacé de mort.
Ça, on ne sait pas, ça. On n'en a pas entendu parler, je pense pas.
Il fallait témoigner d'une certaine lâcheté pour vouloir s'en prendre à Claude.
Incroyable. Il a été menacé de mort. Ouais. Votre frère qui sauve tout le monde a été menacé de mort. Ouais.
C'était sauvage à l'époque. Il y a une caricature dans la presse de 1982 où sur un coin de rue, d'un côté, vous avez les chefs syndicaux avec des battes de baseball qui se disent « Est-ce qu'on va être assez, les gars? Prenons pas de chance. » Et il y a Claude qui s'en vient à civière de l'autre côté, qui l'attendent. Et ils se demandent s'ils seront assez pour en finir avec lui. C'est assez ironique, un peu drôle, mais ça témoigne de l'atmosphère de l'époque.
Et la menace de mort?
Oui.
C'est dur à vivre, ça?
Fallait le faire. Jean Cournoyer, qui témoigne dans le film, dit que, comme ancien ministre du Travail, il ne croyait pas qu'on puisse avoir voulu s'en prendre aux malades avec autant de hargne et de violence.
Et donc, ça dérangeait, son œuvre dérangeait.
Très clair.
Et pourtant, il a amélioré la vie et il continue à améliorer.
Mais il a fait repousser ce que certains pensaient être leurs droits jusqu'à la limite des droits des malades eux-mêmes.
Le droit
comme
sur le droit des autres, quoi, finalement. Ouais. Le mauvais droit, quoi.
Le droit de vivre, le droit de survivre, le droit d'être traité dignement. On ne peut pas revendiquer comme responsable de syndicat la dignité sans respecter celle des autres, surtout celle des plus faibles et des plus vulnérables qui n'ont pas les moyens de se défendre souvent.
On va parler de la fin de votre frère, comment ça s'est terminé tout de suite après. On fait une pause musicale, Les Guerriers d'amour. Alors dites-nous pourquoi?
Parce que je connais une des chanteuses.
Bon, allons l'écoute.
Elle devenait ben mystérieuse.
Vous écoutez ces gens qui font la différence. Nous sommes en direct avec Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. On parle de la fin de vie de votre frère. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Est-ce que ça a été long, douloureux? Pour vous, comment vous l'avez vécu?
Ben, en fait, en février 1987, un matin, on apprend que Claude serait tombé de son lit, ce qui ne lui était jamais arrivé en plus de 30 ans d'hébergement et d'hospitalisation, apparemment victime d'une crise d'épilepsie. Celle-ci ne se diagnostiquera jamais jusqu'à son décès. À tout événement, on avait volé sa télé.
Attendez, je veux revenir là-dessus. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de diagnostic là-dessus, de posée officielle?
Parce qu'il n'avait probablement pas fait de crise d'épilepsie malgré ce qu'on avait annoncé dans l'établissement.
Assez grave, ça.
Assez grave.
Très grave.
Alors, on avait volé son téléviseur, sa radio dans sa chambre. Et par la suite, Claude...
Mais pourquoi?
Ben, c'est demeuré un mystère. J'aurais voulu, j'ai déjà demandé en onde, devant caméra, de parler à celui qui avait volé la télé et la radio de Claude. Lui, c'est probablement ce qui est arrivé à Claude. De sorte que, sans diagnostic et après son décès, ma mère, évidemment, voulait éviter toute controverse, mais pour avoir rencontré un médecin qui avait fait son stage comme jeune médecin à l'époque, que j'ai rencontré il y a quelques années, celui-ci m'a dit que Claude avait probablement été projeté sur le sol durant la nuit, victime, encore une fois, de violence par des gens qui lui en voulaient. 1987, négociation, c'est difficile dans le réseau de la santé. Alors, je continue de demander à parler à celui qui a volé sa télé et sa radio parce que Si personne ne s'avance pour me dire « c'est moi qui ai volé la radio », peut-être que celui qui a volé la radio et la télé est celui qui a jeté Claude par terre. À tout événement, Claude ne put jamais reprendre la parole. Il était extrêmement affligé, malade et traumatisé physiquement et autrement par ce qui lui était arrivé. Et il mourut un an après, sans qu'il ait pu, malgré sa rage qu'on sentait, parce qu'il était très... il bougeait beaucoup. On n'a jamais su ce qui lui était vraiment arrivé, mais on soupçonne que Claude a probablement été tué à petit feu par cette chute-là qu'on lui a fait prendre en février 1987.
Alors, depuis ce temps-là, j'imagine que c'est une bonne chose de le faire aussi au micro, de dire à cette personne,
oui,
rentrez en contact et dites-nous ce qui s'est passé.
Si elle est encore vivante, il lui reste encore un peu de temps pour peut-être se faire pardonner, mais au moins venir me dire à moi, Paul Brunet, je vais essayer de la rejoindre, qu'est-ce qui est arrivé à Claude? Vous qui avez volé sa radio et sa télé, vous savez ce qui est arrivé à Claude? Oui. Et j'aimerais ça que vous me contactiez parce que ce mystère-là continue évidemment de jeter de l'huile sur le feu de cette rage que nous avons, que j'essaie de canaliser dans la conduite de l'œuvre de Claude, mais qui est parfois difficile à...
Oui, oui, tout à fait. Puis vous avez le droit tout à fait de savoir, comme tout le monde, ce qui s'est passé. Exact. Alors, vous continuez... Ça fait vraiment, il y a beaucoup d'employés maintenant avec son œuvre. Vous êtes responsable que les choses se passent très, très bien au conseil. Vous avez été déposé un mémoire à l'automne dernier. Le projet 10, donc on va appeler ça la réforme Barrette, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a eu des conditions. Hein? Quelles ont été les conditions et qu'est-ce que vous avez déposé en quelques mots? Qu'est-ce que vous avez dit au docteur Barrette?
Bien, on a dit au docteur Barrette que les réformes dans le réseau de la santé étaient bienvenues et qu'il y avait certaines conditions à respecter. Nous observons et œuvrons dans le réseau depuis tellement longtemps que nous pensons pouvoir apporter un minimum de choses qui vont améliorer, accélérer l'efficacité du réseau. Évidemment, la réforme devrait enfin porter sur le fait que le malade doit être au centre. Et cette fois-ci, pas nous le promettre, mais le faire véritablement. Ce que, à notre avis, le projet de loi 10 ne définissait pas clairement. Aussi, il fallait, malheureusement, ça ne s'est pas encore fait, déléguer l'autorité vers les gens qui soignent localement, dans les municipalités, dans les régions, là où on doit avoir une autorité minimale pour donner le soin. Ça fait partie de la définition même d'une organisation de service dans la littérature, que quand on a cette mission-là de servir ou de soigner, on doit avoir le plus proche possible des gens qui soignent cette autorité-là pour modifier le tir, pour livrer le soin qu'on a la mission de livrer.
Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. Est-ce qu'il remplit ces conditions? Parce que vous, si je comprends bien, c'était conditionnel à avoir cet appui-là. Là, maintenant, est-ce que vous trouvez que ça rentre dans vos critères ou ça ne rentre pas dans vos critères?
Bien, écoutez, il est arrivé un événement tout récemment, le dépôt du projet de loi 20, qui, un peu à la manière que le docteur Barrette a de faire les choses, un peu de manière très directive et carrée, directe, il s'en prend maintenant aux médecins pour leur dire, écoutez, c'est assez. On a essayé toutes sortes de manœuvres pour vous inciter à faire plus et à faire mieux auprès des patients. Ça ne va pas assez vite par rapport à l'argent que l'État investit en vous. Désormais, on va être plus directif. C'est la méthode Barrette, mais qui, devons-nous l'avouer, si elle vraiment elle se met en application, devrait voir au bout du compte la possibilité pour plus de patients, plus de citoyens d'avoir accès à un médecin. Ce n'est pas normal que, comme le disait Bernard Descoteaux dans Le Devoir, que de vouloir voir un médecin relève d'un tour de force, à moins qu'on soit à l'article de la mort. Ça ne se fait plus, ce n'est plus acceptable. Et toutes les façons qui ont été essayées ne fonctionnent pas assez. Maintenant, on va s'en prendre respectueusement aux médecins pour leur dire, écoutez, vous avez des devoirs à faire. J'ai beaucoup aimé ses propos quand il a dit, c'est pas une question d'incitatif, c'est une question de responsabilité sociale. Vous avez les patients en main, c'est un régime public, monopolistique pratiquement. Vous allez devoir faire vos devoirs parce que les patients attendent et n'ont plus à payer plus pour pouvoir vous voir.
Est-ce que cet avenir-là vous fait peur?
Bien, écoutez, ça peut. Le statu quo est inacceptable. Je sais qu'il y aura des négociations. On sait qu'historiquement, il n'y a pas un ministre de la Santé qui est passé à travers le lobby des fédérations de médecins. Comment tout ça va aboutir? J'espère qu'il va rester encore quelque chose pour que, et c'est le but que l'on vise, on ne veut pas faire mal à personne, encore moins aux médecins, mais on veut que les patients, que les citoyens aient accès à un médecin quand ils en ont besoin, mm-hmm. pas juste quand ils sont à l'article de la mort ou qu'ils sont mourants. Il me semble que ce n'est pas compliqué et les médecins sont certainement une bonne partie de la solution.
Alors, on fait une pause et on revient avec notre jeu questionnaire. Alors, Maître Paul Brunet, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
René Lévesque, grand homme d'État, simple. J'aime les gens simples. Certainement Gandhi m'a inspiré beaucoup, m'inspire. Des gens qui ont fait avancer la cause du peuple, d'une population donnée. J'aime beaucoup quand les gens œuvrent pour une cause et font parler d'eux plutôt qu'ils ne parlent d'eux-mêmes.
Vos mentors?
Ben écoutez, Henry Mintzberg, en management, qui a su, je pense, donner une ère plus instruite et informée à la gestion, parce que la gestion, ça a été une des choses importantes pour moi dans la vie, dans mm-hmm. ma carrière.
Vos livres que vous nous recommandez?
Ben là, ça dépend. Encore une fois, Henry Mintzberg en management. En littérature, La vie de Malraux, Nous avons été deux, de Dominique Bona, qui a été consacré membre de l'Académie française tout récemment.
Oui, tout à fait.
Alors, bravo. J'ai différents intérêts. J'aime beaucoup l'œuvre, je pense que c'est Pierre Daneau, Le capitalisme à visage humain. Qui fit son apparition à Venise au 18e siècle, qui est un exemple apparemment de capitalisme à visage humain et que je recommande. Très intéressant. En plus, on apprend sur la ville de Venise.
Alors, on a de belles choses, quoi, finalement. Justement, en parlant d'artistes et de Venise, et vos artistes préférés?
Oh, Paul Boissonneau. Buissonneau, en fait.
Oui. Qui nous a quittés.
Qui nous a quittés, qui était un homme extraordinaire. Jean Duceppe. En fait, je suis un peu vieillot. Hein? Bon, j'ai 56 ans, mais il y a des jeunes artistes aussi qui sont extraordinaires. J'aime beaucoup les œuvres de ces jeunes réalisateurs. Je pense à Xavier Dolan, qui nous a foutu toute une claque au visage avec le film Mommy, qui est extraordinaire. Comment ce jeune homme-là a pu comprendre assez ce que les mères, ce que les femmes vivent dans de telles situations pour l'avoir mis à l'écran, ça relève du dépassement.
Et en quelques secondes, vos villes que vous nous recommandez et que vous aimez.
Il y a des villes magnifiques au Québec. J'aime beaucoup Trois-Pistoles. Jusqu'à un certain point, Rivière-du-Loup, sur le bord du fleuve. Escipite, les Escoumins, c'est un endroit de prédilection pour moi. Ce sont des endroits magnifiques que je recommande aux gens.
Merci beaucoup, Paul Brunet. Donc, on peut suivre vos travaux à travers le Conseil pour les protections des malades. Un grand, grand merci d'avoir passé 60 minutes en notre compagnie.
Merci à vous.
Et merci à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté, à la réalisation de l'émission, Christiane Campagna à la recherche et aux médias sociaux, Claudia Benoît. C'est Sophie Stanquet. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Et surtout, prenez soin de vous. Bye-bye.